Perché non sa voler bene?
Perché non è vero che una donna possa cambiare un uomo.
Perché non sa voler bene?
أنت لاعب الكرة. هل تعرف أن الكرة محرمة؟
You know, I don't see what there is to be cagey about, Mr. Marlowe. And I don't like your manners.
Well, I'm not crazy about yours. I didn't ask to see you.
Mais recueillons-nous plutôt devant l'image de souffrance de ce beau visage de prédateur des montagnes.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission de cinéma sur Transistor. Cette semaine, nous filons vers les États-Unis d'Amérique à la rencontre d'un des monstres sacrés de la presse mondiale, filmé par l'un des monstres sacrés d'Hollywood, j'ai nommé le Washington Post, mis en scène par Steven Spielberg dans Pentagon Papers, et je suis avec Thomas pour en parler. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Puis nous nous retrouverons, comme d'habitude, en fin d'émission pour parler des sorties et événements cinématographiques de la semaine. Mais sans plus attendre, filons vers l'Amérique des années 60 et sa capitale, Washington. Alors en 1966, la guerre du Vietnam est déjà le désastre que nous savons, et l'armée américaine s'enlise dans la jungle tandis que les autorités étouffent les rapports d'experts envoyés sur place afin que le Congrès et le peuple continuent de soutenir l'effort de guerre et d'envoyer des jeunes hommes au front sans discuter. Mais l'un des délégués envoyés sur place décide de faire fuiter le rapport commandé par le secrétaire d'État McNamara en le communiquant au très prestigieux New York Times. Le prestigieux journal donc en fait paraître des extraits mais tombe rapidement sous le coup d'une interdiction de publier. Un dilemme se pose alors au Washington Post, dont l'un des reporters a réussi à mettre la main sur le rapport classé secret défense, publié ou ne pas publié. La décision est entre les mains de la patronne du journal, Katharine Graham, incarnée par Meryl Streep, seule aux commandes depuis le décès de son père et le suicide de son mari, et mise en difficulté par les hommes de son entourage, qui ne cessent de vouloir l'infantiliser du fait de son genre. Alors Thomas, qu'est-ce que tu as pensé de Pentagon Papers ?
Eh ben, j'ai trouvé que c'était un peu lourdingue et un peu lourd. Enfin, il y a tout le temps des plans ultra symboliques, mais symbolisme forcé. Et puis le jeu des acteurs aussi est ultra, cliché
poussif.
Quoi. Ouais, poussif et puis cliché. Enfin, on a Tom Hanks en chef de rédaction à l'américaine en mode I want the papers on my board tonight. Enfin bon, je le fais très mal.
Et puis toujours les pieds sur la table.
Et puis toujours, toujours la main sur le côté. Et puis Meryl Streep qui est. Meryl Streep, j'arrive pas à la situer dans le film. Quoi. C'est un peu étrange. Elle vole par là. Enfin bon, non, j'ai pas trop aimé. Quoi.
Moi non plus, j'ai pas beaucoup aimé ce film. Enfin, j'ai vraiment l'impression que Spielberg arrivait un peu après tout le monde dans ce film. C'est-à-dire que déjà, on a ce plan d'ouverture qui nous a fait sursauter toi et moi quand on était dans la salle, où on se retrouve face à un écran noir avec de la musique rock des années typiques des années 60 vraiment, plus des sons d'hélico dans le lointain sur écran noir, mais et puis d'un coup cut et on se retrouve au Vietnam. C'est interdit ça. Enfin je veux dire, on l'a vu revu dans les années 70, c'est plus possible. Alors en fait, c'est un film qui serait très bien passé pendant le nouvel Hollywood, enfin dans les années 70 et puis les années 80, mais qui paraît juste en retard de 40 ans aujourd'hui, moi j'ai l'impression.
Et puis en plus, ce passage au Vietnam, pour couronner le tout, il est inutile. Ouais. C'est-à-dire, on connaît la guerre du Vietnam. Et puis c'est un peu ce que je reproche aussi à tout ce film, c'est d'arriver un peu après tout le monde. Et puis Spielberg, il fait un film sur un événement que tous les Américains connaissent, et puis il en fait des tonnes, il en fait des caisses dessus.
Sur lequel il y a eu énormément de films de guerre justement dans ces années-là.
Oui, c'est ça.
Il apporte rien de nouveau, quoi. Dans ce passage de...
Oui, oui.
De mise en scène du Vietnam, en fait, j'ai l'impression qu'il apporte rien de nouveau.
Enfin, c'est même symptomatique de tout le reste du film. En fait, il apporte rien de nouveau sur.
Oui, c'est
sur
ça. Oui, c'est ça. Et puis, dans ce film, comme tu disais au début, c'est vrai que c'est un film à thèse, bon, d'accord, mais qui est extrêmement lourd, extrêmement pesant. C'est-à-dire qu'on n'a pas deux minutes pour souffler, qu'on a. On remet une couche, genre, vous avez bien compris, compris. Parce que, par exemple, il y a des phénomènes de redites incessants. Genre au moment du dîner où Meryl Streep dit bon mesdames maintenant c'est le moment de nous retirer quand les hommes se mettent à parler de politique, et on a ensuite un cut entre le moment où un des hommes à table dit Kennedy rigolait souvent à mes blagues, et là cut violent et on voit les femmes rigoler de leur côté. Ça aurait suffi, c'était pas la peine de faire toute cette mise en scène en mode oui c'est le moment où les femmes se retirent.
Ouais, et puis j'ai un peu l'impression aussi qu'il y a un genre de rapport de classe ultra schématique entre le rédacteur en chef et Meryl Streep, et la directrice Katharine Graham. Enfin, elle est tout le temps montrée, oui, comme la bourgeoise qui va devoir dénoncer ses amis bourgeois qui ont fait des exactions pour la première, enfin pas des exactions, mais qui ont menti aux Américains. Puis de l'autre, on a le rédacteur en chef qui pousse un peu du côté du côté pour la liberté de la presse en mode
Oui, c'est ça, enfin c'est un film qui interroge pas vraiment un système, il montre des archétypes, donc du coup le rédacteur Catherine Graham, et qui montre des réussites individuelles, par exemple de la riche aristocrate blanche, etc., mais sans s'interroger sur tout ce monde qu'il y a autour. On voit vite fait des manifestants contre la guerre du Vietnam, etc., mais on voit que Catherine Graham qui a l'air de galérer avec ses problèmes de la haute société, quoi, finalement.
Puis on voit, enfin les rédacteurs du journal, ils sont tout le temps d'accord avec eux, enfin il n'y a pas d'opposition non plus, c'est-à-dire qu'on va dans un sens qui est celui de la liberté de la presse et on le défend à tout prix.
Oui, c'est ça, et tout ce discours sur la liberté de la presse, avec le rappel un peu lourdingue des amendements à la fin, avec la musique, les envolées de violon, machin, enfin, ça fait tout un système de comparaison assez lourdingue entre Nixon et Trump, mais qui pourrait être justifié et justifiable, mais qui se retrouve à tomber totalement à plat, parce que ça n'interroge pas aussi les défauts de la presse américaine, enfin... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est une époque où, effectivement, il y avait beaucoup d'ingérences américaines qui étaient passées sous silence par les autorités, mais aussi par la presse qui était dans une relation de collusion avec les autorités, etc. Et là, on a l'impression que ce film raconte comment un peu le Washington Post s'affranchit de ce système-là. Mais je sais pas si ces comparaisons sont vraiment pertinentes aujourd'hui. Enfin, on a vraiment l'impression que... il n'interroge pas ce qui se passe aujourd'hui avec la post-vérité, etc. Et on a l'impression que c'est toujours la même chose et qu'il ne formule pas de critique envers les médias aujourd'hui. Enfin, c'est Lordon qui parle dans un article qui s'intitule « Politique post-vérité ou journalisme post-politique ». Il explique que avant on était peut-être dans la politique post-vérité, mais qu'aujourd'hui c'est le journalisme de combat, le journalisme politique, qui se contente simplement de fact-checker sans pour autant se placer dans un rapport de démystification de l'idéologie et qui refuse de voir ses propres biais, qui refuse de voir comment l'information qu'il délivre va être située. Et là, j'ai l'impression que Spielberg, dans ce film, il sacralise totalement la presse écrite comme si c'était une espèce d'organe de la démocratie absolument intouchable et comme s'ils étaient purs et parfaits. Et puis, d'autre part, les autorités, le gouvernement qui cherchent à flouer les citoyens. Mais il ne formule pas de critique envers le Washington Post qui a pu avoir des collusions, etc. On a l'impression que c'est cette pauvre Meryl Streep qui était prise dans un système malgré elle et malgré tout.
Oui, il n'y a pas de chaîne causale des événements, quoi. Ce qu'on attendrait d'un film comme ça. Enfin, il me semble qui nous explique un peu ces rapports de force là, et non, enfin on nous les explique pas, on nous les expose, quoi. Oui, puis on nous force l'exposition des fois. Enfin, ces plans où on voit ce qui m'a buté, ce plan où elle sort du tribunal et elle descend les marches et il y a que des femmes qui la regardent avec une petite musique au violon et que des femmes qui sourient béates. Il y a un beau message, mais il est beaucoup trop appuyé.
Mais le pire, c'est que cette scène, c'est aussi une redite d'une autre scène où le moment où elle monte dans le bureau de la banque pour signer l'entrée en bourse du Washington Post, alors ça on le discute pas du tout, l'entrée en bourse d'un journal, il n'y a pas de problème.
Oui, non, tout va bien.
Mais par contre, on la voit passer à travers une haie d'honneur formée par toutes les secrétaires de la banque qui sont là sur l'escalier. Quand elle rentre dans la salle, il n'y a que des hommes. Alors cette scène toute seule est plutôt pas mal, c'est-à-dire que bon, on voit une espèce de traversée de par le fond du cadre, etc., quelque chose qui se passe, bon machin, symbolisme peut-être un peu lourd, mais quand même pas trop mal. Et puis la redite en sortant du procès qui est extrêmement lourde. Enfin, tout semble redoubler une deuxième fois dans ce film. Enfin, c'est un film qui bégaye, on dirait.
Au cas où vous auriez pas compris, quoi.
Oui, voilà, c'est ça. Donc du coup, est-ce que on conseille ce film ?
Non.
Bah moi je pense que ça vaut pas forcément le coup de se déranger et qu'un article du Monde Diplo aurait suffi.
Oui, c'est ça, c'est exactement l'idée. Oui. Un article, lisez la presse, c'est plus intéressant que ce film.
Et tout de suite, passons aux sorties de la semaine. Alors d'abord, le 31 janvier, donc mercredi, aujourd'hui, sort « Oh Lucie » de Atsuko Hiranyanagi, pardon pour la prononciation, qui a été primé à la semaine de la critique à Cannes. Alors c'est un film qui raconte l'histoire de Setsuko, qui mène une vie solitaire et sans saveur à Tokyo, entre son travail et son appartement, jusqu'à ce que sa nièce, Mika, la persuade de prendre sa place à des cours d'anglais très singuliers. Cette expérience agit comme un électrochoc sur Setsuko. Puis un autre film qui a été primé en festival, Centaure, qui a été primé à la Berlinale. C'est un film de Aktan Arim Kubat. Alors ça se passe dans un village au Kyrgyzstan. Centaure, autrefois voleur de chevaux, mène désormais une vie paisible et aime conter à son fils les légendes du temps passé où les chevaux et les hommes ne faisaient plus qu'un. Mais un jour, un mystérieux vol de cheval a lieu et tout accuse Centaure. Pour les événements, maintenant, le 1er février à 18h30, le Ciné-Club de la Fourmi sera consacré à Dunkerque dans sa série sur les Oscars 2018. Donc Dunkerque, qui est un film de Christopher Nolan et que nous avons chroniqué ici. Et puis, l'Aquarium Ciné-Café inaugure le 1er février à 20h45 une série de films sur le thème de Sur la route. Alors, il y aura le 1er février, donc Easy Rider à 20h45, à 20h45, toujours le 8, Carnet de voyage, et le 15, toujours la même heure, Les Ogres. Voilà, d'étoiles plein les yeux, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Marie à la régie, merci à Thomas de m'avoir accompagné, et bonne semaine dans les salles obscures.